Françoise Brénard, bonjour.
Bonjour. Eh bien, nous continuons, nous en sommes à la 5e émission. L'originalité de cette présentation de l'Évangile selon saint Jean est que nous tenons compte de la civilisation orale dans laquelle cet Évangile a été composé. C'est pourquoi l'évêque qui a fait la préface est tout à fait inconnu pour la plupart des auditeurs. C'est Mgr Mirkis, qui est irakien, qui parle araméen et qui, depuis sa tendre enfance, est habitué à mémoriser les évangiles, à les savoir par cœur, avec le cœur, mais avec quelques techniques de mémorisation. Aujourd'hui, nous allons d'abord dire un mot sur saint Jean. Jean est le disciple bien-aimé. Littéralement, Talmida Drachem, le disciple des entrailles. On pourrait dire qu'il y a trois sortes de disciples. Tout d'abord, celui, comme le nom de Simon l'indique, écoute. Ensuite, il y a celui qui retient tout bien par cœur, Nathanaël, surnommé Bartoulmaï, le fils de la jarre où l'on conserve les documents. Il doit être un de ceux-là. Et puis, il y a celui qui est drachem, le plus en union spirituelle avec le maître, qui perçoit la pointe la plus fine de son enseignement et qui est capable de s'exprimer comme lui, avec l'esprit et les gestes de son rabbi, en exprimant l'émotion de la même façon. D'où l'importance de transmettre oralement les choses. Malgré son jeune âge, Jean avait reçu du Seigneur en croix le testament « Voici ta mère ». Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. La Vierge Marie n'a pas cessé de rassembler autour d'elle. Et parmi ceux qui viennent la voir, certains se mettent à l'école de Jean, qui est auprès d'elle. De son côté, Jean, qui avait pour vocation d'être auprès de la Vierge Marie, avait pu préparer et mûrir en sa présence une formation profonde. En l'an 41 ou 42, après l'assassinat de son frère Jacques, Jean quitte Jérusalem et part à Éphèse, signale Eusèbe de Césarée dans l'histoire ecclésiastique. Il est accompagné, bien sûr, de la Vierge Marie. Vers l'année 42, il atteint l'âge de 30 ans. Son enseignement peut alors sortir du seul cercle de ses disciples et des proches de la Vierge Marie. À cette époque, Marc publie à Rome, en latin puis en grec, les aides-mémoires des récitatifs de Pierre. On dit des récitatifs dans une civilisation orale, c'est-à-dire un morceau que l'on apprend par cœur et que l'on récite. De la sorte, le témoignage de Pierre se met à circuler maintenant par écrit, dans les milieux gréco-latins. C'est une invitation à Jean à en faire autant, avec son propre témoignage, primitivement composé en alternance avec celui de Pierre, sous les colonnades du temple, comme nous le disent les Actes des Apôtres au chapitre 3, et comme nous l'avons déjà expliqué dans la seconde émission. Mais entre-temps, Jean avait organisé son enseignement en filets de méditation. D'abord le proto-filet, un petit filet. Un filet, c'est-à-dire quelque chose qui se récite dans l'ordre habituel, mais qui peut aussi se réciter dans un ordre transversal. Si vous voulez, il y a les fils horizontaux du filet et puis les fils verticaux, qui permettent une méditation thématique. Mais on ne peut pas mettre par écrit un filet, parce qu'on ne peut pas transformer en un écrit linéaire ce qui est fait pour être médité en filet, justement. Le rayonnement de Jean est donc limité à ceux qui se font ses disciples, ou bien des disciples de ses disciples. Et il ne va pas mettre en écrit tout de suite. Par ailleurs, dans les années après 42, On peut penser que Jean ait développé son enseignement en le recomposant en un filet plus grand. Marie, mère du Verbe, n'y fut sans doute pas étrangère. Un tel travail se fait lentement, comme un musicien compose une symphonie ou un peintre une toile complexe. Il convient de dater cette composition du vivant de la Vierge Marie et envisager que ce travail fut finalisé pour la rencontre des apôtres à Jérusalem pour l'année 47-48, qui est une nouvelle année sabbatique. Les années sabbatiques sont l'occasion de grands rassemblements, à la fois religieux et, figurez-vous, commerciaux. Commerciaux parce que les Hébreux tiennent des routes commerciales qui vont jusqu'en Espagne, jusqu'en Inde et même en Chine. À Jérusalem, le procurateur romain Tibère Alexandre est tolérant, ce qui permet à la Vierge Marie d'y venir avec Jean et d'y demeurer sur place. Venu aussi à Jérusalem, Paul répond de l'évangile qu'il prêche aux incirconcis. Il le récite devant Pierre, Jean, Jacques au moins. Lettre aux Galates, chapitre 2. La tradition transmet l'année de la mort d'Hormition Assomption de Marie, à la 22e année après que Jésus, le Messie, soit remonté au ciel. Marie enflammée de désir de revoir le Seigneur. Alors ça, c'est le Transitus Mariae arabe, au chapitre 5, donc une tradition orientale. Alors 22 ans comptés à l'oriental après l'année 30, cela nous mène à l'année 51. Que se passe-t-il après? Eh bien, nous savons, par Clément d'Alexandrie cité par Eusèbe de Césarée dans Histoire ecclésiastique, que Jean allait, sur invitation, dans les pays voisins habités par des gentils, tantôt pour établir des épiscopes, des évêques, tantôt pour choisir comme clerc un de ceux qui étaient désignés par l'Esprit. Autrement dit, l'évangile de Jean tel que nous le connaissons, le filet de Jean, était une formation spécialement destinée aux épiscopes, c'est-à-dire les évêques et les clercs, les prêtres. Donc, aujourd'hui, nous allons méditer le fil ou collier numéro 2, puisque le filet de Jean va contenir 8 fils horizontaux et 6 fils verticaux. Mais nous allons les découvrir petit à petit. Pour ceux qui voudraient aller plus vite que les émissions radio, je vous rappelle mon livre « Jean, l'évangile en filet » aux éditions Parole et Silence. C'est en train de sortir ces jours-ci, c'est à l'usine. Avec la préface donc de Monseigneur Mirkis, comme je l'ai dit, qui est irakien. Dans la première émission, nous avons lu cette préface tellement émouvante. Nous avons vu dans la première émission qu'il y a dans les civilisations orales des techniques de transmission avec la composition de récitatifs. Nous avons expliqué que le comptage est la base de toute mémorisation en culture orale. On compte par exemple avec des perles que l'on enfile dans un collier. Donc maintenant, nous sommes dans le deuxième collier ou fil horizontal. Jésus parle du salut. Le salut pour la Samaritaine sous la forme de l'eau vive, pour la vie qui est pour toujours. Le salut du monde dans la deuxième perle. La guérison du fils de l'officier dans la troisième. La guérison et le pardon pour le paralytique dans la quatrième perle. La bonne nouvelle entendue par les défunts et le salut pour les morts dans la cinquième perle. Et la vie qui est pour toujours, en scrutant les Écritures qui nous parlent de Jésus, dans la sixième et dernière perle. La grâce du salut accomplit la signification d'une année sabbatique. Une année sabbatique était prescrite tous les 7 ans, c'est pour ça qu'on dit sabbatique, pour le repos de la terre, livre de l'Exode, chapitre 23. Mais aussi pour la rémission des dettes et la libération des esclaves. Deutéronome, chapitre 15. C'était une année de grâce du Seigneur. Cette coutume, qui favorisait indirectement les échanges commerciaux internationaux, avait été rétablie en Israël à l'époque du Christ. Nous savons qu'il y eut une année sabbatique en l'année 27-28. Et nous avons vu dans le premier collier que l'épisode des vendeurs chassés du temple à Pâques, 46 ans après les débuts du travaux du temple décidés par Hérode le Grand, eh bien, que cet épisode date de l'année 27. L'année sabbatique 27-28 commence en automne, donc quelques mois après la Pâque de cet épisode. Et donc, quelques mois après, nous arrivons au deuxième fil horizontal, celui que nous allons méditer aujourd'hui, qui date de cette année sabbatique. Et la guérison du paralytique eut lieu un jour de Shabbat, Jean chapitre 5, verset 10. Donc, un jour de Shabbat, et ce jour-là, nous dit l'Évangile, il y avait une fête, sans préciser laquelle. Or, en l'an 28, seule la fête de Pentecôte, Shavuot, tombe un jour de Shabbat. De plus, elle achève la période de pèlerinage pour que les gens rentrent chez eux à la belle saison. Donc nous avons une confirmation, nous pouvons dater ce deuxième collier de l'Évangile de Jean. C'est l'année sabbatique, c'est donc une année de grâce. Et c'est aussi une année où il y a de grandes foules provenant de toutes les routes commerciales d'Orient et d'Occident. L'année sabbatique va amplifier le ministère de Jésus. Voyez, dans ces chapitres qui font le deuxième collier, nous avons chapitre 4 et chapitre 5 de l'Évangile selon saint Jean. Et nous avons une guérison qui va entraîner la conversion de toute la maisonnée, Jean chapitre 4, verset 53. Et nous avons une évangélisation du chef-lieu de Samarie, Jean chapitre 4, verset 39. Eh bien, l'évangélisation, elle se fait à partir des maisonnées et à partir des chefs-lieux, des gros bourgs, des villes. Eh bien, cette évangélisation, elle va prendre de l'ampleur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a plein de pèlerins qui vont voir les miracles, entendre les discours et repartir. Pour les uns en Grèce, en Italie, en Espagne, mais aussi en Syrie, en Égypte, à Chypre, en Inde, et que sais-je. Alors, voyons maintenant ce collier, une perle à la fois. Il y en a six. Première, Jean chapitre 4, versets 4 à 30. Une femme, sans doute mal vue, va au puits quand personne n'y va, à midi, sous la chaleur. Son personnage reflète la situation de la Samarie. Alors, un peu d'histoire, chers auditeurs. Pendant le règne d'Akaz, en l'an 735 avant Jésus-Christ, Damas et Samarie assiégèrent Jérusalem parce que Jérusalem refusait d'entrer dans leur coalition contre la Syrie. Cette histoire explique pourquoi les Judéens n'ont pas commerce avec les Samaritains. Or, c'est à une Samaritaine que Jésus demande à boire. En observant que Jésus n'a rien pour puiser, la femme fait référence à une tradition juive qui dit que Jacob roula la pierre de dessus le puits. Le puits jaillit et répandit ses eaux alentour. La femme insinue qu'il faudrait faire un miracle analogue à celui que fit Jacob au puits source, dans lequel l'eau monte et déborde. Serais-tu plus grand que notre père Jacob ? Alors Jésus lui fait une promesse. Mais ces eaux-là, que moi je lui donne, seront en lui une fontaine d'eau qui jaillisse pour la vie qui est pour toujours. Voyez, je récite l'Évangile avec le rythme des Pèdegames où l'on respire. Mais ces eaux-là que moi je lui donne seront en lui une fontaine d'eau vive qui jaillisse pour la vie qui est pour toujours. La Samaritaine sait bien qu'elle n'a pas de mari. Et Jésus reprend ses mots. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et Jésus se sert surtout de cette situation pour qu'elle exprime le drame religieux qu'elle porte, sans doute depuis l'enfance, et qui l'a conduite à un laxisme moral. Si un même Dieu doit être adoré à Jérusalem et en Samarie, cela signifie qu'aucun des deux lieux n'est valable et que tout cela est faux. Alors, avec bonté, Jésus l'appelle à découvrir ce qu'elle ne connaît pas, l'adoration du Père. Il y a 8 fois la racine adorée dans cette perle, et elle est associée à la racine vérité. Par exemple, Jésus lui disait : Femme, crois-moi, l'heure vient où ni sur cette montagne, ni même à Jérusalem, vous adorerez le Père. Vous, vous adorez une chose que vous ne connaissez pas. Nous, en revanche, nous adorons ce que nous connaissons. Car la vie vient des Judéens. En araméen, la vie, c'est pareil que le salut. Haïe. Mais l'heure vient, et maintenant elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Aussi, en effet, le Père recherche-t-il de tels adorateurs? C'est l'esprit, en effet, qu'est Dieu. Et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'il convient qu'ils l'adorent. Jésus précise, le salut vivification vient des Judéens. On va faire un peu d'histoire. Qu'avaient de plus les Judéens par rapport aux Samaritains au plan de l'adoration? Avec Josias et le Deutéronome, ils avaient la théologie du mémorial, où l'amour de Dieu transcende le temps. On lit dans le Deutéronome « L'amour dont Dieu a aimé nos pères est pour nous qui sommes ici, aujourd'hui, tous vivants. » Extraordinaire. L'amour dont Dieu a aimé nos pères est pour nous qui sommes ici, aujourd'hui, tous vivants. Et puis, avec Ézéchiel et sa vision du char divin, on dit aussi la Merkava, il savait que Dieu transcende aussi l'espace et rejoint les exilés. Alors voici que Jésus se révèle le Messie. La Samaritaine s'en va témoigner et les hommes du chef-lieu viennent auprès de Jésus. Ce qui nous amène à la perle suivante. Voici les perles, elles s'enfilent. Elles s'enfilent comme dans un collier. Nous voici donc à Jean chapitre 4, versets 31 à 44. Jésus révèle à ses disciples : ma nourriture, celle qui est la mienne, c'est que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé et que j'accomplisse son œuvre. Cette confidence explique ce qui précède et qui a tant choqué les disciples. C'était la volonté du Père que Jésus ait une conversation avec la Samaritaine. Dès lors, beaucoup de Samaritains viennent vers Jésus et comprennent que Jésus est le sauveur du monde. Selon l'attente juive d'un Messie qui, par exemple, sauvera les fils de pauvres jusqu'aux extrémités de la terre, psaume 71. Un homme limité peut-il être le sauveur du monde, comme disent les Samaritains, Jean chapitre 4, verset 42? La perle suggère la réponse. Celui dont l'humanité est nourrie de la divine volonté, de la volonté du Père, est totalement uni avec la divinité, laquelle lui confère une fécondité qui n'est pas limitée dans l'espace. Jésus peut se réjouir de la moisson et les disciples qui, eux, n'ont pas peiné, sont invités à se réjouir eux aussi. Et celui qui moissonne prend le salaire et rassemble les fruits pour la vie qui est pour toujours. Et le semeur et le moissonneur ensemble se réjouissent. Il y a un semeur, c'est Jésus, lui qui avait peiné. Il suffit de se souvenir de la perle précédente. La Samaritaine semblait d'abord ne pas vouloir partager l'eau. Tu n'as rien pour puiser. Et se vanter du puits comme d'une propriété. Notre père Jacob. Elle déformait l'histoire par un mensonge flatteur. En effet, Jacob n'a pas donné le puits au Samaritain. Il l'a simplement donné à son fils, Joseph, qui est aussi l'ancêtre des Judéens. Elle mettait une rivalité entre le lieu d'adoration des Samaritains et celui des Judéens. Mais Jésus avait tenu bon. Donc Jésus a peiné. Il a peiné, mais les disciples sont invités à se réjouir aussi. La joie de Jésus, liée à ses actes de sauveur, appartient aux disciples. Elle vous appartient aussi, à vous qui m'écoutez. Jésus peinera aussi dans sa douloureuse passion. Et les disciples en moissonneront les fruits. Mais Jésus n'est pas l'unique semeur. Moi, je vous ai envoyé moissonner, quelque chose pour laquelle vous n'avez pas peiné. D'autres, en effet, ont peiné. Et vous, vous êtes entrés dans le labeur qui fut le leur. Dans la circonstance immédiate, les autres semeurs peuvent avoir été Jésus lui-même qui a peiné avec la Samaritaine, ou bien des disciples de Jean-Baptiste, ou encore des disciples de Jésus autres que les 12. Si l'évangéliste ne précise pas, c'est parce que la composition de la paire nous invite à une méditation plus générale et plus profonde. Ces autres semeurs sont tous ceux qui se nourrissent de la volonté du Père. Ils produisent des vies que tôt ou tard d'autres moissonneront. Ils produisent des vies que tôt ou tard d'autres moissonneront, et vous aussi, chers auditeurs. Alors, nourrissons-nous de la volonté du Père. La volonté du Père est une vraie nourriture. Jésus reste là 2 jours. J'ouvre une parenthèse, il ne s'agit donc pas des mêmes Samaritains qu'en Luc chapitre 9 qui, eux, vont chasser Jésus. 3e perle. Alors, la 2e perle, elle nous a montré que le chef-lieu de Samarie reconnaît Jésus. Dans cette 3e perle, c'est toute une maisonnée qui se convertit. La 2e perle nous dit que Jésus est le sauveur du monde. Dans cette 3e perle, eh bien, on voit un exemple de salut. Un serviteur du roi demande à Jésus « Mon Seigneur, descends avant que ne meure le garçon. » Jésus lui dit « Va ton fils, est vivant. » Et cet homme crut en la parole qu'avait dite Jésus et s'en alla. Jésus opère une guérison à distance. Potentiellement, il peut guérir le monde entier à distance. La 4e perle approfondit le sens du salut-guérison que Jésus apporte. À Bethesda, ça veut dire la maison de la miséricorde, au milieu d'une foule de boiteux et de malades, Jésus fait attention à un paralytique. Eh bien, voyez, au milieu de la foule des auditeurs de Radio Maria, Jésus fait attention à un. Il sait distinguer dans la foule un homme, surtout celui qui n'a personne. Il s'en approche et lui demande s'il veut guérir. Il écoute sa plainte et lui dit « Mets-toi debout, emporte ton lit et marche. » Ensuite, Jésus retrouve cet homme au temple, sans doute pour rendre grâce, et lui dit « Ne pêche plus. » Eh bien, maintenant, nous allons nous étendre un peu sur la 5e perle. Il y a 3 déclarations solennelles, « Amen, amen », qui vont rythmer l'enseignement de Jésus. « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut faire aucune chose de par sa volonté propre. Nefesh, l'âme, le souffle, mais seulement ce qu'il voit que le Père fait. Ces choses, en effet, que le Père fait, celles-là, le Fils aussi, pareillement, les fait. » Indirectement, Jésus invite les disciples à suivre son exemple pour se détacher de leur volonté propre, humaine et créée, et pour s'unir à la volonté divine, infiniment puissante et créatrice, fondement de tout ce qui existe. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. L'amour du Père pour le Fils est ici exprimé avec la racine rechem, qui évoque les entrailles maternelles, une tendresse naturelle, une communion de nature. Souvenez-vous, Jean est le disciple Rechem, le disciple des entrailles. Un signe d'oralité indique un nouveau travail de composition à partir du verset 24. Et de fait, le thème est maintenant celui du jugement et de la vie. Les morts sont évangélisés et vivifiés par Dieu le Fils, lui qui est descendu en son humanité au séjour des morts. Il juge et rétablit ainsi la justice, l'ajustement au dessein du Créateur, lui dont la volonté humaine lui fut toujours unie. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en qui m'a envoyé, il y a pour lui la vie qui est pour toujours. Et au jugement, il ne vient pas, mais il quitte la mort pour la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et même elle est venue maintenant, où les morts entendent la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'entendent revivent. De la même façon qu'au Père, en effet, il y a la vie en sa personne, Knoma en araméen. Ainsi, il l'a donnée aussi à son Fils, pour qu'il ait la vie en sa personne, Knoma en araméen. Et il l'autorise à être aussi celui qui rend le jugement, car c'est lui le Fils de l'homme. Ne vous émerveillez pas de cela, que vienne l'heure, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendent sa voix et sortent, ceux qui firent de bonnes œuvres pour le relèvement de la vie, ceux qui firent de mauvaises œuvres pour le relèvement du jugement. Revenons au verset 25. Les morts entendent la voix du Fils de l'homme. Dans le Shéol, les âmes peuvent entendre cette voix pour être sauvées. Ce qu'il faut entendre en faisant résonner le collier, être sauvé, c'est être éclairé comme le fut la Samaritaine et être guéri comme le fut le paralytique. Il ne s'agit pas d'un salut automatique. Jésus propose le salut, mais ceux dont les œuvres sont mauvaises ne l'accepteront pas. Continuons. Et mon jugement est juste, je ne cherche pas ma volonté en effet, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce dernier verset fait écho avec le début de la perle. Le Fils ne peut faire aucune chose de par sa volonté propre. Verset 19. Toute l'action du Fils au séjour des morts est contenu dans l'union de sa volonté humaine avec celle du Père. Du fait qu'en son humanité, Jésus cherche uniquement la volonté du Père, il a le droit et le pouvoir de juger, de discerner et de rétablir ainsi la justice, l'ajustement au dessein du Créateur. Retenons, si vous les voulez bien, la parole de Jésus aux Judéens. De la même façon qu'au Père, en effet, il y a la vie en sa personne, en lui-même, en sa Knoma, ainsi il l'a donnée aussi à son Fils, pour qu'il y ait la vie en sa personne, en lui-même, en sa Knoma. Ce verset prépare le discours du pain de vie, dans le troisième fil horizontal qui sera la prochaine émission, dans 15 jours. Si vous ne mangez le corps du Fils de l'homme et ne buvez son sang, il n'y a point, quant à vous, la vie dans votre personne, en vous-même, dans votre Knoma. Alors, dernière perle. Jean, chapitre 5, versets 31 à 47. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, le Shabbat, qui est le septième jour, est marqué d'une ambiguïté. Dieu acheva et se reposa. Les interprétations mettent l'accent sur l'un ou sur l'autre. Guérir, c'est parfaire la création, c'est l'achever. C'est donc faire l'œuvre de Dieu le jour du Shabbat. La guérison du paralytique avait eu lieu un jour de Shabbat. Et il faut que Jésus se justifie, parce qu'il fait l'œuvre de Dieu le jour du Shabbat. Cette perle-ci constitue la finale de la controverse liée à l'activité du Christ le jour du Shabbat. Jésus répond qu'il a en sa faveur, premièrement, le témoignage de Jean-Baptiste, deuxièmement, le témoignage des œuvres qui sont la manifestation tangible du Père, troisièmement, le témoignage des Écritures et de Moïse. La question des témoins est d'une très grande importance. Ce n'est pas uniquement une question juive, c'est une question universelle. Le langage humain n'est pas programmé par un autre. Il est autonome, mais sur quoi peut-il s'appuyer pour éviter l'erreur, la confusion, le mensonge, le non-sens, le relativisme généralisé? Il faut un appui extérieur pour certifier le langage humain. Si cet appui est un témoin humain, on ne sort pas vraiment de l'impasse, même s'il y a deux témoins. Dieu seul peut conférer force et fondement au langage humain. Jésus est le témoin fidèle de Dieu. Et il a lui-même des témoins humains. Scrutez les Écritures en lesquelles vous espérez, afin qu'il y ait pour vous la vie, qui est pour toujours. Elle témoigne de moi. Et vous ne voulez pas venir auprès de moi, afin que la vie qui est pour toujours soit pour vous. Le problème des Judéens, c'est qu'ils veulent trouver la vie dans la parole de Moïse donnée par les anges, mais non pas la vie dans la parole donnée par le Fils. C'est pourquoi Moïse sera leur juge, parce que les Écritures témoignent précisément qu'elles conduisent à celui qui est la vie. Les Écritures témoignent de Jésus. Pouvons-nous donner quelques exemples? Le Deutéronome annonce un prophète comme Moïse. Daniel annonce la venue du Fils de l'homme et celle d'un prince messie. Isaïe, sans toutefois oser imaginer l'incarnation, priait en soupirant « Nous sommes depuis longtemps des gens sur qui tu ne règnes plus et ne portes plus ton nom. Ah, si tu déchirais les cieux et descendais, devant ta face les montagnes seraient ébranlées. » Eh bien, avant de se quitter, nous allons faire une synthèse. La synthèse de ce collier. Nous avons parcouru tout le collier, chapitres 4 et 5 de l'Évangile de Jean. Jésus parle du salut, salut pour la Samaritaine, sous la forme de l'eau vive, qui est pour la vie qui est pour toujours, salut du monde, la guérison du fils de l'officier, la guérison le paralytique, la bonne nouvelle entendue par les défunts, le salut pour les morts, non pas le salut dans la mort, mais le salut à l'heure de la mort, et la vie qui est pour toujours en scrutant les Écritures qui nous parlent de Jésus. Écoutez, ceux qui veulent avoir plus de détails sur le salut, la bonne nouvelle entendue par les défunts, j'ai fait un livre entier, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Hein. Ce livre s'appelle « La bonne nouvelle aux défunts », nouvelle perspective de la théologie des non-chrétiens, de la théologie des religions, pardon, aux éditions Via Romana, avec la préface de Mgr Minrat. Donc, s'il vous plaît, lisez le livre entier pour ne pas faire de caricature. Alors, revenons à notre collier. Il a une structure concentrique. La première paire nous dit que Jésus est le Messie attendu. La dernière nous dit qu'il a été annoncé par le témoignage des Écritures. La deuxième et l'avant-dernière nous disent que Jésus peut sauver parce qu'il est l'envoyé du Père, fidèle à sa volonté, la divine volonté. Il y a une vérité très importante: pour réparer un système, il faut être extérieur à ce système. Pour sauver le monde, il faut être envoyé par le Créateur. Les deux perles centrales nous disent que la guérison est associée à la conversion, conduisant à la vie éternelle. On remarque aussi une progression linéaire. On commence à Sichem. Ensuite, la Samaritaine témoigne et demande « Ne serait-il pas le Messie ?» Ensuite, on glisse vers une messianité universelle, le Messie, le Sauveur du monde, la deuxième perle. Puis, le salut du Christ s'étend au séjour des morts. C'est l'accomplissement de la mission du Christ, hein, catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 634-635. L'accomplissement de la mission du Christ s'accomplit au séjour des morts. Mystère du samedi saint aussi. Hein. Et puis, ensuite, eh bien, bien sûr, vous savez que comme il est le Fils de l'homme, eh bien, le Fils de l'homme, il viendra sur les nuées du ciel pour instaurer un royaume d'humanité, lequel ne s'accomplira que dans le retour glorieux du Christ. Voir mes livres sur le sujet. Alors, maintenant, je voudrais préparer l'émission suivante. où nous allons parler du pain de vie. Parce que ce collier le prépare. Ce collier nous parle de la restauration de la ritualité humaine. Nous avons eu une guérison le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat est un rituel. C'est le jour où l'homme rencontre Dieu, non pas sur le registre de la production d'œuvres, puisque c'est le jour où on se repose, mais on rencontre Dieu en tant qu'interlocuteur et ami. Et bien justement, dans le récit de la guérison du paralytique le jour du Shabbat, Jésus établit une amitié avec cet homme. Il y a tout un dialogue merveilleux. Une autre façon de préparer la ritualité, le rite, le culte, c'est la rencontre de Jésus avec la femme de Samarie. On y a parlé d'adoration. Mais le puits de Jacob où a lieu cette rencontre, c'est le lieu de l'union nuptiale entre Jacob et Rachel. Le lieu d'une rencontre amoureuse. Et le rite chrétien, eh bien, c'est la rencontre amoureuse entre la nature divine et la nature humaine. Il s'agit d'adorer le Père en esprit et en vérité. C'est le rituel fondamental de la nature humaine, antérieur à Moïse et au rituel du Temple de Jérusalem. Comme par exemple le rituel d'Abraham et même de Melchisédek, et on peut même remonter à la ritualité de Caïn et Abel, qui faisaient à Dieu des offrandes spontanées. Caïn rend hommage au Dieu, œuvrant pendant les 6 jours de la création, et il offre la valeur ajoutée que l'homme apporte à la terre par son travail et sa culture. Abel fait couler le sang d'un agneau et offre ainsi la vie de cet agneau, vie qui ne résulte pas d'un travail, mais d'une communication de la vie du vivant. Il rend hommage à Dieu en son Shabbat. Or, à cause de la guérison que Jésus a opérée en Shabbat, les Juifs veulent tuer Jésus. Jean chapitre 5, verset 18. Ils sont dans la position de Caïn, qui offre ses œuvres, le fruit de son travail. Il ne comprend pas pourquoi son offrande n'est pas agréable. Jésus, lui, est dans la position d'Abel, qui va être tué, mais il retourne la situation. Il faut manger le corps et boire le sang du Fils de l'homme. Car c'est lui qui donne lui-même sa vie. Ainsi, nous avons préparé la prochaine émission où nous allons parler bien des chapitres suivants, donc 6, chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Donc, Jean, l'Évangile enfilé, publié aux éditions Parole et Silence au mois de novembre 2020. Et vous pouvez retrouver donc tout cela sous la forme de petits YouTube illustrés avec quelques schémas sur mon site foi-vivifiante.fr. foi-vivifiante.fr, un site qui a l'avantage de contenir beaucoup de choses, par exemple des fondements bibliques qui peuvent être utiles quand on n'a pas beaucoup de bases. Voilà. Merci.
Merci Françoise Brenard.
Mais oui, à la prochaine alors.
En union de prière, à bientôt.
En union de prière. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.